familial qui se transmet, qui s'hérite.
Oui, à ma connaissance, à ce que je sache, les socialistes sont contre la propriété privée des moyens de production, mais ils ne sont pas contre la propriété privée, le cas échéant, d'une brosse à dents, éventuellement, je dis ça comme je pourrais dire autre chose, d'un orgasme partagé, par exemple, avec un partenaire avec lequel ça marche bien.
Pour toi, il y a rupture complète de la vie entre ce type de propriété-là, c'est-à-dire la propre à la vie commune, et la propriété et les moyens de production. C'est pas du tout la même chose.
Oui, si je voulais faire une mauvaise plaisanterie, mais elle n'est pas totalement absurde, je dirais la femme comme moyen de production des enfants, comme moyen obligatoire, parce que autrefois, la femme risquait chaque fois, si vous voulez, idéalement parlant, de produire un enfant. Depuis l'invention de moyens anticonceptionnels efficaces, sous cet angle-là, même ce rapport forcé qu'on pourrait construire est détruit, si vous voulez, et c'est à partir de maintenant, je réponds pas exactement à la même longueur d'onde du problème dont tu parles, la femme peut devenir réellement la partenaire égale de l'homme dans un couple durable, puisque la peur ancestrale des femmes, qui la liait à sa constitution biologique, est détruite. En tout cas, idéalement parlant, détruite. Sous cet angle-là, le couple durable pourrait repartir, le couple durable moderne, depuis l'invention de moyens anticonceptionnels efficaces, pourrait repartir sur des voies nouvelles.
On ne peut pas séparer on ne peut pas faire simplement que la révolution économique sans faire la révolution sexuelle.
Et d'autre part, il faut le noter qu'on ne peut pas s'imaginer, il est tout à fait illusoire de s'imaginer une révolution sexuelle précédant un changement fondamental des structures économiques.
Qui en ce moment est très contestée, dont on parle beaucoup, c'est la famille. Partout, on crie sur la famille, et pourtant c'est une structure qui peut-être être valable, enfin qui est aussi très valorisée par des tas de gens, pas forcément par les gens de l'idéologie dominante, enfin qui représentent l'idéologie dominante. Et en même temps, moi, je crois savoir que la famille, c'est quelque chose d'assez récent, enfin, ça n'a pas toujours existé sous la forme qu'on connaît, c'est-à-dire papa, maman, les deux ou trois enfants. Ça n'a pas tout le temps été comme ça.
Ce qu'on appelle la famille nucléaire de papa, maman et les enfants, c'est une chose relativement récente dans l'histoire des sociétés. Et beaucoup de gens s'imaginent que ce type relativement nouveau de la famille était le seul type de la famille qu'on connaisse. Rien que cela, ça devrait nous consoler d'un certain point de vue si cette forme particulière de la famille est née, ça veut aussi dire qu'elle disparaîtra, et peut-être assistons-nous d'ailleurs effectivement à sa disparition progressive, y compris dans les faits que comme dans la morale, d'un certain point de vue. Alors il faut quand même insister et le répéter, et le rappeler que les deux derniers présidents de la République, aussi bien Pompidou que Giscard d'Estaing, ne ratent pas une occasion pour dire que une des bases de la société française est la famille, l'institution familiale et naturellement, ce qu'on ne dit pas en même temps, sa valeur en tant que base de la morale.
peut-être peut-on rappeler que déjà dans le manifeste communiste, Marx, à qui on avait reproché que les communistes étaient pour la destruction de la famille, défend l'idée que les communistes n'ont pas besoin de détruire la famille parce que l'évolution de l'économie capitaliste s'en charge. Effectivement, si on veut, cette petite famille nucléaire, en dernière analyse, a été la forme familiale de la production simple de marchandises. Imaginons-nous la vie artisanale dans les villes lors de la remontée de la vie urbaine en Europe après le Moyen-Âge. Et sous cet angle-là, la famille nucléaire était une unité de production réelle. Elle a depuis longtemps perdu ce caractère-là, et même son caractère d'être une unité de consommation permanente, se perd de plus en plus. Imaginez-vous quelle vie mènent les gens dans la région parisienne, où même comme unité de consommation et unité de vie des parents avec les enfants se réduit de plus en plus. On peut dire que toute la journée ouvrable, ou une bonne partie de la journée ouvrable pour énormément de gens des grandes villes en France se passe hors famille. Alors sous cet angle-là, on peut dire que c'est le capitalisme qui détruit la famille, y compris la petite famille nucléaire, de façon tout à fait sûre. Reste quand même le fait pourquoi dans les milieux populaires, et pas seulement nécessairement dans les milieux qui sont sous l'emprise de l'idéologie catholique, qui viennent de l'empire catholique, l'idéologie familiale, l'idéologie matrimoniale n'est pas totalement morte. Je crois qu'une des raisons, c'est que la structure familiale est ou semble être dans les yeux de pas mal de femmes, surtout des femmes de milieux populaires qui éventuellement ne travaillent pas, une espèce de garantie d'une certaine sécurité matérielle et affective. Mais je crois que ce sont des avatars sous cet angle-là aussi du passé. Et on semble voir que la petite famille nucléaire en tant que valeur de morale perd de plus en plus son impact, et elle existe encore bien entendu dans les faits, mais pour de larges couches de la population, politico-moralement parlant, si je peux m'exprimer ainsi, cette idéologie s'est littéralement effondrée.
Oui, ça va s'accélérer avec la mise au travail des femmes de plus en plus nombreuses. Enfin, il y a de plus en plus de femmes qui vont travailler. Là aussi, ça réduit de plus en plus peut-être l'importance de la famille.
De toute façon, j'ai remarqué souvent quand on discute dans un milieu de gauche et surtout d'extrême gauche et la femme de ces problèmes-là, beaucoup de gens, quand ils disent famille, veulent dire couple durable. La famille est l'estampillage idéologique de relations de la sphère de la vie privée, et sous cet angle-là, elle a une importance idéologique, mais comme phénomène humain, nous serons beaucoup plus avisés si nous discutions des problèmes du couple durable.
Oui, mais avant, il y a quand même quelque chose qui me fracasse un peu, si tu n'as pas tout à fait persuadé, parce que il me semble que dans une grande partie de la gauche, on parle aussi beaucoup de la famille. Enfin, dans le programme commun, il y avait, dont je me souviens, plusieurs paragraphes sur la famille. Et il semble que pour l'instant, tout au moins, c'est encore une valeur, disons, ouvrière, tout au moins de ces organisations.
Oui, il faut rappeler, c'est intéressant, par rapport à la conjoncture
politique actuelle que le PC a découvert les vertus de la défense nationale en même temps que les vertus de la famille. Je veux parler de 1936. Le virage vers réformisme ouvertement avoué, vers une espèce de social-démocratisation qui n'a pas commencé récemment comme les gens naïfs ou ignorants s'imaginent, mais qui ont commencé avec la politique sous Staline, encore dite du front, des fronts populaires et des fronts nationaux, était la superstructure, si je peux dire, du changement de nature des partis traditionnels de la classe ouvrière quand ils ont laissé tomber un radicalisme et un révolutionnarisme verbal et quand ils sont allés vers une politique ouvertement opportuniste, une politique qui se voyait comme ne dépassant pas en dernière analyse le cadre de la société bourgeoise.
D'accord. Alors, je sais pas, moi le couple, bon là aussi on en parle beaucoup et puis il me semble qu'il y a des tas de choses qui sont tentées. Enfin, on parle de plusieurs couples qui vivent ensemble, on parle de vie communautaire, on parle d'échanges, on parle de tas de choses. Enfin, aux États-Unis même, on fait des échanges un peu systématiques régulièrement entre amis. Bon, je sais pas, enfin, ça, tout ça c'est.
Deux couples de pasteurs parce qu'ils vivaient ensemble et parce qu'ils pratiquaient aux horreurs suprêmes l'échangisme des femmes. Mais blague à part, il y a effectivement quelque chose que l'extrême gauche des années 20 et des années 30, me semble-t-il, discutait moins. Ce qui est nouveau, c'est qu'on met en doute, enfin on met en cause la structure même du couple durable traditionnel. Je voudrais tout de suite ici dire que couple durable n'a pas le sens d'une femme pour un homme pour toute la vie, mais c'est une liaison durable qui peut durer quelques mois, qui peut durer quelques années, mais en tout cas qui n'est pas envisagée nécessairement à l'échelle de la vie, ce qui en plus dirait les sexologues de gauche, est tout à fait antiphysiologique. Et depuis mai 68, de plus en plus, le public, prudemment, une partie du public, est ouvert et discute des expériences collectives qui doivent nullement correspondre aux petites annonces échangistes du sexe groupe qui, elle, je pense, continue sous une certaine forme, sans le dernier avatar ou un des derniers avatars de l'ancienne phallocratie. Parce que j'ai été frappé en lisant les illustrés dans lesquels on parle de ces expériences-là, et surtout en lisant les annonces des groupes qui sont prêts à faire des échanges, c'est toujours le mari qui propose et qui cet échangisme et qui dit, en ajoutant naturellement, qu'il fait ça pour faire du bien à sa femme. Mais j'ai rarement vu que l'initiative est vue à partir de la femme. Alors, ce n'est pas ça que je trouve particulièrement remarquable, mais d'autres expériences qui, elles, seraient quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on peut parler ouvertement de bisexualité sans que sans rencontrer une incompréhension totale. Et là, on peut effectivement se poser des questions si l'antique partie carrée des blagues des étudiants d'autrefois n'est pas en train d'être prise pour une possibilité réelle. seulement, simplement réservé au diabolique marquis et à ses amis.
Tu parles de bisexualité, tu veux dire deux couples où on a à la fois des relations hétérosexuelles et homosexuelles?
Je fais allusion simplement au fait que un couple durable, il peut y avoir, disons de façon la plus générale, la tentative d'avoir des relations sexuelles d'un autre type. L'homme cherchant des aventures, des relations positives sexuelles, la femme idem. Et sous cet angle-là, ce sont des choses qui ne relèvent pas de ce qu'on appelait autrefois simplement de la tromperie ou des choses comme ça, puisque ces expériences sexuelles sont d'un autre type, ne sont pas simplement le substitut où on trompe sa légitime avec une ou plusieurs maîtresses.
Et enfin, un peu comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai un peu peur que tout ça, ça se fasse aussi aux dépens des femmes ou de la femme. C'est-à-dire que la libération sexuelle, elle soit une fois de plus, enfin, comme qu'on autre chose, plus pour les hommes que pour les femmes. Parce que comme tu le disais, bon, c'est d'abord des maris qui proposaient des petites annonces. Et est-ce qu'en fin de compte, la femme continue pas à rester à la maison, à s'occuper des enfants qui restent, qui existent et qui simplifient sûrement pas un certain nombre de choses. Enfin, si on vit à plusieurs couples, ça veut dire qu'on a sûrement un jour ou l'autre des enfants, et comment ça peut se passer pour eux?
En introduisant dans le débat le fait évident que le couple durable n'est pas incontesté et incontestable comme autrefois, je voulais nullement faire de la propagande ou proposer un autre type de comportement sexuel. Je voulais simplement attirer l'attention des gens qui se prétendent de l'extrême gauche que des certitudes d'autrefois sont aujourd'hui battues en brèche, non seulement intellectuellement, comme possibilité intellectuelle, que ça soit de façon humaniste par Fourier ou sur un mode anti-humaniste par le marquis de Sade, mais qu'il y a beaucoup de tabous sont en train de s'écouler. Et y compris dans les attitudes sexuelles les plus intimes, de nouvelles conduites sont débattues et expérimentées. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est quand on discute des problèmes fondamentaux du couple, je crois qu'il faut se défendre de mêler tout de suite la question. La question des enfants, c'est la grande excuse pour ne pas discuter de façon radicale des attitudes sexuelles.
Il y a en fait le problème, savoir ou quoi le fait d'imaginer des plaisirs communs devient une aliénation pour des plaisirs vécus individuellement. Et d'autre part, en quoi peut-on considérer que l'enfant est un projet commun? Enfin, je pose le problème. Et qu'est-ce que c'est donc avoir? C'est des problèmes que je me pose, je peux intéresser d'autres gens, mais en quoi avoir un projet sur l'enfance, une appropriation de l'enfance, la liberté de l'enfant, en quoi le fait de, disons, d'élever même en commun un enfant et d'en tirer un plaisir est une aliénation de l'enfant et de l'autre? Alors je ne sais pas si on peut répondre, mais ça je crois que c'est hors rapport de domination. Dû à un mode de production.
Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu ne trouves pas que par le fait de l'invention de moyens anticonceptionnels bon marché, utilisables par tout le monde, etc., les derniers liens entre sexualité et procréation sont rompus
définitivement et sous cet angle-là, la sexualité, sous cet angle-là, a cessé d'avoir un côté biologique. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, peut-être que je parle trop chinois pour certains. Et la sexualité est réellement devenue une chose purement, si je dis purement humaine, ce n'est pas cette nuance, parce que la biologie appartient aussi, si vous voulez, à la vie de l'humanité, mais elle est devenue une chose purement culturelle. Elle n'appartient plus au domaine de la nature, en quelque sorte que ce soit. Nature simplement prise ici comme une espèce de force extérieure qui détermine ce qu'on doit faire. Et sous cet angle-là, la réintroduction, je trouve, comme tu introduis l'enfant, je suis le dernier à dire les enfants ça compte pas, on s'en fout, etc. C'est pas du tout ça. Mais puisque nous parlons de sexualité, toute tentative de réintroduire, quand on discute de sexualité, les enfants à ce point, à ce moment de la discussion, me semble-t-il, selon l'opinion personnelle, et je ne force évidemment personne de la partager, est une tentative de la ramener au premier, deuxième ou troisième degré dans des structures comme traditionnellement on discutait de ça, parce que les enfants étaient la grande excuse, et les enfants étaient la grande excuse surtout pour sanctifier la souffrance des femmes, parce que c'était toujours le truc par lequel les femmes devaient se sacrifier, les femmes dans une société, dans une famille du type bourgeois, dans la petite famille nucléaire, trois personnes, lui, elle et le ou les enfants. Alors c'est pour ça, je sais très bien que un très grand nombre, sinon la très grande majorité des couples ont des enfants. Je souhaite en plus, je dis ça entre parenthèses, qu'il n'y ait plus que des enfants désirés. Bon, je ferme la parenthèse, parce que les enfants non désirés aujourd'hui, alors c'est vraiment, si vous voulez, un reste du Moyen-Âge qui dans notre société. Mais je dis bien des enfants non désirés, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu. Ils sont venus, je dirais presque comme ça. Mais je répète encore une fois, c'est très important de discuter des problèmes du couple comme des problèmes du couple et pas introduire tout de suite la variable des enfants qui ont, je viens de le dire, bon dos et qui sont l'excuse de ne pas aller au fond des choses.
Je pense que si on met tout le temps les enfants dans le débat fondamental, c'est qu'au fond, il y a encore un sentiment de culpabilité à l'égard de l'impulsion sexuelle pure et simple, qu'on n'a pas l'habitude et on ne se sent pas autorisé à vouloir faire l'amour pour faire l'amour, et que cette société nous a foutu ça dans le crâne depuis 2000 ans de christianisme et qu'on ne peut pas s'en défaire. Et que malgré tout, pour une femme qui est femelle, c'est une justification. Ce qui est une contradiction, parce qu'on dit d'une femme qui court, comme on dit dans la classe ouvrière, que c'est une chienne. Or, les chiennes, elles ont des gosses à chaque fois qu'elles font l'amour, enfin les femmes. Et je crois qu'il faudrait qu'on se mette dans la tête qu'on n'a pas le courage de dire « je recherche le plaisir ». Et c'est pour ça qu'on justifie plus ou moins la nécessité d'avoir des enfants. Même si ce n'est pas clairement expliqué, ça ressort pendant des années et des années. En ce qui concerne comment on se met à discuter de la famille maintenant, pourquoi on critique la famille, pourquoi elle est remise en question, je crois qu'il y a une grande partie de la liberté des jeunes, peut-être surtout depuis 1968, bien qu'il y a à tout moment dans le monde, on a vu après toutes les guerres, un besoin de vie gratuite, de vie sans piège. Après la guerre de 14, il y a eu une tentative de la part des femmes d'une plus grande libération, de s'échapper de cette famille étroite qui conduit à l'esclavage. Mais finalement, les structures sont tellement dures qu'on revient petit à petit. Les quelques précurseurs, ils sont oubliés et ça reste un peu comme des gens qui servent de but témoin. Mais en fin de compte, ça ne gagne pas les couches larges de la société. Or, depuis 68, il y a une couche de la jeunesse qui fait voir la famille piège. C'est-à-dire, ils regardent leur famille vivre. Ils, en disant juste qu'ils étaient piégés, piégés par le travail, piégés par la société, et piégés par cette espèce d'amour avec un grand A, et ils ont vu leurs parents crever, quoi, dans cette étroite structure. Et je crois que ce sont les jeunes maintenant qui parlent de famille piège, même s'ils ne l'expriment pas comme ça, ils ne veulent pas tomber dans ce piège, et ils cherchent. Je pense, moi, j'espère qu'ils vont trouver. Mais c'est un fait que maintenant, le piège, il est surtout représenté par le besoin de garder la famille éternelle, si on peut dire, parce que les structures économiques nous y obligent. Et la seule solution qu'on trouve dans la bourgeoisie, c'est de s'échapper comme ça, en douce, d'avoir des vies doubles et triples et hypocrites, alors qu'on n'a pas le courage de rompre. Et les enfants cherchent. Et je crois que c'est de ce côté-là qu'il faudrait se trouver. Plus on leur donnera de structures larges, plus eux y trouveront. Parce que c'est trop juste d'être deux pour élever des enfants. Et quand je pense aux femmes qui pensent qu'elles peuvent avoir un enfant toute seule et se débrouiller pour l'élever toute seule, dans cette société-là, je dis qu'elles sont très hardies parce qu'on n'est pas assez deux, alors encore moins tout seul. On ne peut pas répondre aux besoins des enfants, ni à un, surtout pas à un, ni à deux, mais véritablement avec des familles beaucoup plus éclatées.
Si on remet en cause le couple, ça veut dire que, plus ou moins à terme, on va aussi remettre en cause la façon qu'on a d'éduquer les enfants. C'est-à-dire qu'on va peut-être aller vers des structures d'éducation collective des enfants, où les enfants vivront beaucoup plus ensemble et beaucoup moins dans la structure de la famille, le triangle papa, maman et les enfants.
Je voudrais quand même dire deux choses. D'abord, il est possible que nous, tout ce que nous avons, tous les arguments que nous avons donnés contre une éducation collective d'un certain point de vue des enfants, y compris des petits-enfants, aient été de l'idéologie bourgeoise ou petite bourgeoise intégrée et une célébrité comme Bethlehem a démontré démontrer que des enfants élevés dans des conditions collectives ne sont statistiquement parlant pas plus malades ou ne montrent pas plus de signes de dérangement que des enfants élevés individuellement. La seule chose que je voudrais dire dans ce contexte-là, parce que c'est une idée qui semble toujours être neuve ou en tout cas tout à fait étrangère, y compris à la conscience de bien de militants de l'extrême gauche, sinon de la très grande majorité, c'est le fait que dès le début du siècle, des pédagogues radicaux, aussi bien en Allemagne qu'en France, ont défendu l'idée que non seulement les adolescents, mais que probablement même les enfants avaient besoin d'être éduqués dans leur classe d'âge, c'est-à-dire dans un monde, ou en tout cas dans des structures qui sont particulièrement prévues pour eux, et où il y aurait peut-être des adultes, sûrement pas nécessairement les parents, qui s'occuperaient, qui serviraient cette communauté d'enfants, qui serviraient, qui vivraient avec la communauté des adolescents pour autant qu'elle les désire, mais en tout cas qu'une autre façon qu'on peut se l'imaginer, il faudrait que des adolescents, peut-être aussi des enfants, devraient participer à un monde qui serait culturellement et matériellement tout à fait autrement structuré. Je ne veux pas m'étendre ici sur les tentatives qui ont eu lieu dans ce domaine-là. En tout cas, en Allemagne, avant même le bouleversement apporté par la Première Guerre mondiale de 1914, il y a eu des gens qui ont préconisé la libre communauté scolaire des enfants et des adolescents comme structure particulière, comme nouvelle culture des jeunes.
Oui, Sagan.
Quoique, tu as dit tout à l'heure un mot qui n'a pas été été relevé, qui moi me semble peut-être essentiel dans cette discussion, tu as parlé de modèle sexuel dominant. Et je crois qu'en effet, la relation qui existe entre sexualité, couple et famille, puis c'est ça qu'on discute, c'est de savoir, enfin disons si, de pouvoir décrire, de pouvoir d'abord savoir si on semble être d'accord sur le fait qu'existe effectivement un modèle sexuel dominant qui s'institutionnalise en termes de couple et mariage, et même de pouvoir le décrire, ce modèle dominant. Moi, je suis frappé, par exemple, que ce qui fait, disons, des comportements caractéristiques de la société capitaliste, aussi bien en ce qui concerne le marché capitaliste, la lutte entre les entreprises, par exemple, pour dominer le marché, ou bien la lutte entre les individus, ou entre des hommes, par exemple, pour contrôler une femme, ou entre des femmes, par exemple, un homme, ça c'est le rapport de force, le rapport de domination, hein, cette dialectique là particulière. Or cette dialectique là on la retrouve d'abord dans la gestuelle sexuelle. Si vous parlez d'un modèle sexuel dominant, la gestuelle de la sexualité, elle est, qu'on le veuille ou non, avec toutes sortes de petites choses qu'on peut mettre autour, on appelle ça des techniques ou des choses comme ça, elle est basée dans la société où on vit, sur le modèle tendant à dire l'orgasme vient par pénétration, hein, avec tout ce qui peut aller avant la pénétration pour aider à ce au quoi on va arriver, c'est-à-dire la pénétration et la jouissance par pénétration. Et il y a des mots dans le langage commun pour pénétration, on dit on possède une femme, hein, on dit cet homme a pris la femme, a pris une femme, et on entend par là il l'a pénétrée. Donc, il y a dans le couple, la vie quotidienne d'un couple, tout le monde ici a vécu ou vit la vie quotidienne d'un couple, je crois que c'est aussi de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire de l'établissement d'un rapport de force qui se développe, comme tout rapport de force, qui a sa dynamique, qui peut se retourner en son contraire, mais c'est cela qui est la vie quotidienne d'un couple, c'est la vie d'un rapport de force, hein, avec un rapport de force dominant qui est celle d'une société faite aussi, disons, sur un modèle phallocratique dominant, qui est donc le rapport de force dominant des hommes. Et le mariage, tel qu'il a été défini tout à l'heure, n'est en fin de compte pas, à mon avis, qualitativement différent de ce qu'est le couple, il est simplement la sanction juridique maximum de ce qui peut être la conception du couple, c'est-à-dire la sanction d'un rapport de force. Mais juridiquement, lire ici des éléments du code civil, par exemple, concernant le mariage, bon, c'est très clair, il apparaît très clairement du point de vue de la juridiction même du mariage ou du divorce, par exemple, puisque ça va en même temps, que ça sanctionne un rapport de force dominant. Donc j'ai vraiment le sentiment que si on veut essayer de trouver ce qui pourrait unifier dans la discussion sexualité, couple et famille, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est à partir effectivement de la notion qu'a avancé Boris dans sa introduction tout à l'heure, y a-t-il ou non un modèle dominant, et qui dit modèle dominant dit autre modèle qui s'oppose mais qui s'articule avec celui-là. On pourrait parler par exemple de la libération sexuelle, par exemple, qui pour moi, enfin dans certaines manières dont ça a été utilisé ou exprimé ou pratiqué après 68, n'est que l'envers purement et simplement de la sexualité dominante, et non pas une rupture par rapport à elle. Enfin, si on continue peut-être intervenir là-dessus, mais je crois que c'est ça. Y a-t-il ou non un modèle sexuel dominant qui s'exprime, qui s'institutionnalise dans le couple avec la sanction juridique qui peut être le mariage ou pas. Donc je répète, souvent quand il y a discussion entre camarades sur ces problèmes-là, on dit le gars est contre le mariage, pour le mariage, etc. C'est le problème du mariage est absolument, à mon avis, secondaire par rapport au problème de l'institution même du couple et de la sexualité, du type de qui donne naissance au couple.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi le capitalisme a encore besoin de réprimer la sexualité des gens. Parce qu'on est une société de plus en plus riche, on parle de société d'abondance, bon, d'abondance sûrement pas pour tout le monde, mais enfin il y a quand même effectivement un certain nombre de signes qui démontrent que bon, on est quand même plus à l'aise que dans le temps, on profite de beaucoup plus de choses. Alors pourquoi le capitalisme a besoin, sous d'autres formes qu'il a pu faire au 19e siècle, de réprimer la sexualité des gens?
En dernière analyse, je pense que le système capitaliste ne pourra jamais renoncer à la répression sexuelle, parce que la répression sexuelle est la base même de la formation d'un caractère de soumission. Et le système capitaliste, rien que pour des raisons d'organisation de travail, ne peut pas fonctionner avec des êtres libres. Je ne parle pas pour l'instant de la question qui paraît chiffonner autant de gens, qu'est-ce qu'on ferait dans son état libre, ce qui me semble être une fausse question. Mais pour autant qu'il faille travailler, le type de relation capitaliste-travail, l'organisation du travail n'est pas possible et n'est pas pensable avec des êtres réellement libres. Parce que la structure du travail capitaliste est basée sur des relations du type hiérarchique, et les relations du type hiérarchique institutionnalisé sont le contraire même de la libre, du libre exercice de la personnalité.
Tu veux dire que si les gens étaient libres, notamment libres sexuellement, ils ne pourraient plus accepter le système capitaliste?
Ils ne pourraient pas à l'atelier, à l'usine, au bureau, d'avoir une attitude d'une plus ou moins grande soumission. Et l'armée du travail ne fonctionnerait pas.
Non, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que les organisations de gauche, révolutionnaires ou pas, soient pas saisies plutôt de ces problèmes. Si ça peut permettre aux gens de... Enfin, si ça peut amener les gens à accepter beaucoup moins, et plus du tout même, en fin de compte, le capitalisme, comment ça se fait qu'on n'a pas aussi mené des luttes sur les problèmes de la sexualité, enfin, notamment avec les jeunes, les adolescents, les femmes, enfin, les gens qui sont plus réprimés que les autres sexuellement?
On a peut-être pas fait ça dans le passé, et encore, il y a eu des expériences de masse. Justement sous l'impulsion de Reich en Allemagne, le mouvement Sexpol, etc. Mais ça pose la question de l'intérêt, pourquoi des organisations ouvrières, pourquoi des militants de l'extrême gauche en particulier devraient mettre dans les discussions à l'ordre du jour des questions de ce type-là, le rôle du combat pour une sexualité libre, la relation entre sexualité et culture, et de façon plus générale, l'importance des luttes culturelles, des luttes dans le domaine culturel, et sous cet angle-là, le fait que nous sommes en train de débattre et qu'à l'intérieur d'une session d'un centre de formation de militants socialistes, on pose comme ça me semble être la preuve du progrès dans ce domaine-là, et le fait que un nouveau style est en train peut-être de se créer.
Oui, parce qu'enfin, il me semble que pour l'instant, dans les plateformes revendicatives des syndicats, on ne parle pas du tout de sexualité, et qu'au contraire, on a tout souvent tendance à dire que ça, c'est pas des problèmes. Que c'est problème privé, que ça n'a rien à voir avec la lutte des classes, etc. Alors qu'il semble au contraire que si on se battait là-dessus, ça permettrait de faire des progrès très importants pour arriver à une société où les gens seraient vraiment libres.
Mais quelques bagarres de masse d'ouvrières qui ont eu lieu dans un passé récent vont faire sauter ces préventions qui datent analyse d'une phase plus heureusement plus ou moins dépassée du syndicalisme, c'est-à-dire des syndicats de métier qui nécessairement défendaient les intérêts des ouvriers hautement qualifiés.
sujets de combat importants et dont les militants devraient se saisir le plus rapidement possible.
Et je crois que c'est à la lutte de ces minorités sexuelles que sont toujours les femmes et les jeunes qui feront cette chape de bienséance petite bourgeoise dont un mouvement ouvrier moderne n'a rien à faire.
Quand même dire, pour terminer quelque chose, je ne suis pas sûr que tout le monde verra immédiatement le rapport avec le sujet de ce soir. Je pense qu'ici dans notre milieu, on cesserait un peu de bavasser sur la dictature du prolétariat, qui en plus n'est pas le but final du socialisme, je le dis aux gens qui éventuellement ne le sauraient pas encore. Et que Marx, d'ailleurs prudemment, a toujours parlé de dictature révolutionnaire du prolétariat, qui arrange déjà un tout petit peu les choses. Si dans notre agitation et notre propagande vers l'extérieur, on parlerait davantage de la lutte pour la pacification de l'existence, tel que vous pouvez trouver ce concept utilisé par Marcuse dans ses livres, soit dans Héros et civilisation, soit dans L'homme unidimensionnel, si nous parlions concrètement, quand nous discutons comme ça avec les gens, davantage de cela, je crois que nous réussirions beaucoup plus facilement d'engager la discussion avec les gens, évidemment, sauf la petite frange de l'humanité pour qui la pacification de l'existence est la dernière des horreurs. Évidemment, pour des gens qui sont du type, je ne sais pas s'il faut dire, barbouze, baroudeur, etc., toute cette frange des déséquilibrés d'extrême droite, évidemment, pour eux, la lutte pour une existence pacifiée n'a aucun sens. Mais pour la majorité des gens, qui sont tous, par définition, sous cet angle-là, aliénés, etc., je pense que ça serait beaucoup plus intéressant et aussi plus rentable, et peut-être notre type de lutte pourrait sortir aussi des gonds habituels et anciens qui nous ont apporté, n'est-ce pas, comme on dit dans chaque feuillon public, tant de victoires, et on glisse naturellement beaucoup plus facilement sur tant de défaites, puisque malheureusement nous sommes toujours 50 ou 70 ans ou 100 ans après la possibilité que le socialisme est devenu une possibilité objective, nous sommes toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la merdouille généralisée.